Micro Méga,
Patrick Chompré,
Jean-Yves Casga.
Bienvenue pour la troisième partie de Micro-Méga. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Patrick, bonjour tout le monde.
Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions et vos remarques comme vous le faites déjà, soit sur le site de RFI, page Micro-Méga, ainsi que sur la page Micro-Méga sur Facebook. Vous aurez peut-être des questions d'ailleurs aujourd'hui avec notre invité multifacette. On en parle tout de suite. Micro-Méga. Et notre invité, Jean-Yves, là aussi, nous emmène vers un monde mal connu.
Elle-même, d'ailleurs, est mal connue, parce qu'on a failli, encore une fois, pas la voir, notre invité. Parce qu'elle aurait pu rester au Canada, où elle a beaucoup étudié, au point d'ailleurs que parfois elle cherche ses mots en français, alors qu'elle est française. On aurait pu la perdre parce que c'est une marine. C'est une Normande, bon, pas le genre aller aux Galapagos, mais quand même, depuis sa Normandie, elle faisait du cabotage, elle avait comme horizon l'Irlande, ce qui est quand même plutôt sympa, surtout bonne bière en Irlande. Donc elle aurait pu ne pas revenir non plus. Mais, avec le nom qu'elle a, c'est quand même quelqu'un très lié à la civilisation de la mer, quand même. On n'aurait pu pas la voir aussi parce que Jean Rochefort l'aurait kidnappé pour un commentaire magnifique sur les Jeux Olympiques d'équitation, parce que c'est une grande spécialiste du dressage. Ouais, et je crois que si Jean Rochefort avait la chance que nous avons, nous, de la voir si près, je pense qu'il aurait fait un commentaire à sa façon, et plutôt pas mal, à l'époque c'était sur France 2. Sinon, c'est une originale, c'est quelqu'un quand vous lui dites « Et alors, si vous aviez une baguette magique, vous ?» une baguette magique, c'est pas mon souci, moi je fais un travail de fourmi. Mais une fourmi qui travaille dans la phycologie, tu sais, la phycologie, c'est forcément une spécialiste des algues, et c'est Lynn Le Gall. Merci Lynn d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, maître de conférence au muséum.
Oui.
Et puis, elle est au CNRS, elle est à Paris 6. C'est quoi exactement votre titre?
Je suis maître de conférence au muséum dans l'unité mixte de recherche, donc une unité mixte CNRS et Paris 6, systématique, adaptation et évolution.
Bon, et si on traduit, vous êtes une spécialiste des algues rouges.
En particulier.
Voilà. Alors, les systématiques, c'est quoi?
C'est la science qui sert à délimiter les grandes lignées dans le vivant et à les classer.
Ah oui, mais sauf qu'alors... une algue, alors, c'est pas un animal, c'est pas un végétal. Enfin, si, et puis on a 6000 espèces connues, mais on pense qu'il y en a peut-être 10 000, peut-être 50 000. On est un peu perdu, alors...
Oui, alors tout d'abord, les algues, il y en a qui sont un petit peu végétales, parce qu'aujourd'hui, on retrouve des algues vertes et des algues rouges dans les plantes. Donc l'ancien règne végétal. Et puis on en a d'autres qui sont des lignées qui sont aussi différentes des plantes qu'elles le sont des animaux, des lignées complètement à part. On va retrouver les grandes algues brunes, celles qui peuvent être très très grandes, les laminaires qu'on va retrouver sur les côtes bretonnes et normandes, et qui peuvent sur les côtes de Californie être gigantesques, atteindre presque 90 mètres de long.
Mais si je nage à ce moment-là, ça peut m'agresser, ça peut être dangereux, 80 mètres d'algues?
Non, les algues, la plupart, ne sont absolument pas toxiques. Et puis, elles sont immobiles, elles sont pour la plupart attachées, donc pas vraiment agressives.
La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que vous-même, pour les récolter, parce que vous ne faites pas que les étudier, vous les récoltez, vous avez amené depuis cette année votre fils Adrien, qui a 4 ans.
Eh oui, je l'emmène mettre la tête sous l'eau pour m'aider à récolter les algues.
Est-ce qu'il faut inventer de nouvelles classifications pour les algues? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire?
Alors, à l'heure actuelle, c'est assez bien délimité. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas leurs relations entre elles à l'origine. Mais je pense que la plupart des grands règnes dans lesquels on va retrouver des algues sont à peu près bien délimités à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas vraiment les inventer, c'est juste décrire la réalité.
Alors, vous êtes très jeune, vous avez passé votre thèse en 2002. Mais en fait... vous ne vouliez pas être phycologiste, vous vouliez plutôt être véto. Et puis c'est une année de terminale médiocre, avec plein de soleil à Deauville, qui vous a plus poussé à bronzer qu'à les réviser, qui a fait qu'en fin de compte, vous n'avez pas fait véto. Mais c'était quoi ce désir d'animaux? C'était parce que vous faisiez du cheval?
Oui, en partie, et puis aussi un vrai désir de la nature. Et puis j'ai eu en fait la chance d'aller à l'université, je m'y suis vraiment bien plu. Et tant et si bien plu que j'ai jamais vraiment quitté le milieu universitaire jusqu'à maintenant.
Et donc, comment vous arrivez, parce que j'ai fait allusion à un séjour au Canada, comment vous arrivez au Muséum d'Histoire Naturelle?
Eh bien, donc après avoir soutenu ma thèse, je suis partie faire un post-doc de près de 4 ans au Canada, et puis il y a eu un poste ouvert sur les algues au muséum auquel j'ai postulé, j'ai eu la chance d'avoir ce poste.
Oui, ça ne doit pas courir les rues quand même, les gens qui étudient les algues, franchement, si?
Non, la compétition n'est pas extrêmement rude, mais les postes sont aussi extrêmement rares.
C'est votre côté original, parce que vous m'aviez dit, quand on préparait l'émission, que en fait, vous aviez cherché à étudier les algues parce que vous aviez pu vous rendre compte que c'était les laissés-pour-compte de la recherche et que vous aviez l'impression que c'était extrêmement important.
Alors, laissés-pour-compte, pas complètement, je pense, mais vraiment, c'est vrai que c'est pas un sujet majeur de la recherche. Et par contre, avec la grande diversité des lignées, justement, c'est aussi à l'origine de la vie. Ça fait partie des premiers organismes photosynthétiques, donc eucaryotes, hein, qu'on a eu sur Terre. Donc, c'est des organismes extrêmement anciens et passionnants.
Oui, alors justement, donc il y a beaucoup d'algues différentes. Et puis, c'est vrai qu'elles sont beaucoup utilisées par l'homme dans l'alimentation, l'agriculture, l'industrie, la chimie, les cosmétiques. Donc, on pourrait penser qu'il y a, au contraire, il y a beaucoup de recherches sur les algues. Et là, vous nous dites que non.
Non, des recherches appliquées un peu plus, mais on connaît très très mal l'étendue de la biodiversité des algues. On a des nombres d'espèces d'algues décrites, mais on n'a aucune idée, en fait, du nombre d'espèces totales d'algues qui existent à l'heure actuelle sur la planète.
Même vous?
Ah oui.
On sait bien que dans l'agroalimentaire, par exemple, les algues, ça sert à faire des agents texturants, donc qui donnent, ça peut faire de la gelée ou des sauces, tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait ne manger que des algues et résoudre une partie du problème de la faim dans le monde?
Non, malheureusement pas. Je pense que les algues peuvent être vraiment utilisées en tant que condiment, mais en tant qu'aliment, ça pose des problèmes, notamment de toxicité. Il y a un certain nombre d'éléments tels que l'iode qui sont présentes de manière trop concentrée dans les algues pour en faire un véritable aliment à long terme.
Mais ce sont les civilisations asiatiques qui, par exemple, les maquis, donc ce sont des rouleaux de poisson avec une algue, enfin, ce qui est noir autour, c'est une algue noire.
C'est une algue rouge, en fait.
Ah, c'est une algue rouge, mais
voilà.
Qui est noire. Ah,
et
d'accord.
Qui, en séchant, devient noire ou verte.
Ah, et c'est pile poil votre spécialité, alors.
Exactement, mais ce sont toujours des algues rouges.
Alors, comment on fait quand on est une jeune femme, jeune épouse d'un spécialiste de la biologie moléculaire des algues, pour pas lui faire tous les jours à manger des algues? Parce que ça doit être un petit peu compliqué. Parce que je sais qu'en plus, vous savez très bien faire le... C'est un poisson en papillote avec des laminaires autour, c'est ça?
Ah oui, ça c'est délicieux. Hein. Ouais. Un petit bar en papillote dans une grande laminaire, c'est à essayer.
Ah oui, d'accord. Mais vous le faites parce que vous êtes complètement obsédé par votre travail, ou c'est parce que, en tant que femme, vous vous dites, tiens, pour faire la cuisine, ça, ce truc-là est très original?
Un peu des deux. Je pense qu'il y a énormément de très hautes cuisines actuellement développées avec des algues, mais avant
ah
tout...
Ah oui, en Espagne, pareil.
Ouais, le plus grand cuisinier du monde, d'après un certain nombre de journaux, hein, Ferran Adrià cuisine essentiellement avec... Enfin, la plupart des textures nouvelles qu'il obtient sont faites avec des algues.
Alors vous savez que vous avez une responsabilité, hein, parce que à cette heure-là, du moins dans la première diffusion de Micro-Méga, ben, beaucoup de gens nous écoutent en faisant la cuisine. Alors, bon appétit. Écoutez Micro-Méga sur RFI, notre invité multifacette, c'est Lynn Le Gall, biologiste, spécialiste de la biodiversité des algues et de l'algue rouge de Méditerranée, on va en parler. Mais peut-être d'abord, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler des algues vertes de Bretagne plutôt, qui donc dégagent de l'hydrogène sulfuré en se décomposant sur les plages. Vous avez suivi cette affaire, j'imagine?
Et oui, j'ai passé mes vacances en Bretagne cet été, donc j'ai vu ces algues proliférer partout. Mais que vous dire, que ce n'est pas vraiment les algues qui produisent l'hydrogène sulfuré, c'est plutôt les bactéries qui vont dégrader les algues, qui vont elles-mêmes produire l'hydrogène sulfuré.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens pour que ces algues ne s'entreposent pas sur les plages.
Et ce qu'il faudrait surtout limiter, c'est la prolifération de ces algues, plutôt que d'éviter qu'elles n'atterrissent sur les plages. Et pour ça, il y a probablement un peu trop d'engrais dans les effluents. Et les algues, c'est vraiment ce qui leur manque pour se développer. Souvent, c'est des nutriments.
Et là, évidemment, avec tous ces engrais...
Elles trouvent tout ce dont elles ont besoin pour se développer.
Ça marche bien.
Lynn Le Gall, donc je parlais tout à l'heure de votre boulot de fourmi. Alors, ça consiste en quoi? Parce que, bon, on imagine bien... Si vous pensez qu'il y a 6000 espèces répertoriées, mais que peut-être il y en a 100 000 inconnues, il y a déjà ce travail-là. Mais vous ne faites pas que ça quand vous travaillez sur des algues rouges.
Non, la première chose, c'est déjà d'avoir l'œil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller les repérer sur le terrain, trouver ces potentielles nouvelles espèces, bien regarder, ouvrir l'œil, le bon. Et puis après, il faut les étudier sur toutes les facettes. Et aujourd'hui, on a un outil qui nous est vraiment très très utile pour arriver à délimiter les espèces, qui est l'outil de l'ADN. On utilise en fait l'ADN comme un petit code-barre qui nous permet, en faisant une courte séquence d'ADN, de délimiter les espèces.
Et une fois que vous avez fait ça, vous cherchez après une autre espèce ou vous essayez d'investiguer les propriétés qu'elle peut avoir? Est-ce que celle-là, elle pourrait servir pour faire du carburant? Celle-là, elle pourrait servir pour faire dans l'agroalimentaire des agents texturants?
Alors, moi, mon travail en tant que systématique, c'est vraiment d'étudier les relations qu'elles vont avoir entre elles. C'est-à-dire qui est proche de qui a des liens de parenté hein, plus ou moins étroits avec qui. Et puis, les potentielles applications, je les laisse à d'autres, en fait. C'est au vu des résultats que l'on sort que les gens peuvent dire, ben là, il y a des molécules intéressantes dans cette lignée, et puis cette espèce qui est proche de cette lignée peut avoir d'autres molécules qui sont intéressantes.
Quand vous dites qu'en termes de relations, elles sont plus ou moins proches, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Eh bien, ça veut dire qu'elles ont eu un ancêtre commun à une époque plus ou moins lointaine. Et donc, celles qui ont eu des ancêtres communs dans une époque assez proche ont probablement plus de propriétés en commun que celles qui ont eu un ancêtre commun dans un temps beaucoup plus reculé.
On remonte jusqu'à quand? Les algues apparaissent quand sur la planète?
Il y a des gens qui les font remonter à 3,5 milliards d'années.
Ah oui, mais donc dans les débuts quoi.
Voilà, dans les tout débuts, mais ce sont ce qu'on appelle des algues procaryotes, donc les cyanobactéries.
Et là maintenant, est-ce qu'on a encore de nouvelles espèces qui... Oui, forcément, mais on ne sait pas si elles apparaissent. Elles sont peut-être là, c'est simplement qu'on ne les a pas repérées.
Il y a probablement les deux, je veux dire. Les espèces apparaissent grâce à un phénomène qu'on appelle l'évolution, et l'évolution est en marche, elle ne s'arrête pas.
Et alors, on sent bien que vous avez une préoccupation écologique, respect des équilibres sur la Terre, ne serait-ce que parce que jeune femme au bord de l'eau à faire du bateau, c'est sûr que ça vous apprend à respecter les éléments. Depuis que vous travaillez sur les algues, vous avez vu quelque chose relatif aux modifications du climat, au réchauffement climatique? Quelque chose se passe dans le milieu que vous étudiez?
C'est vrai qu'on observe une certaine tendance à voir des cycles de reproduction apparaître plus tôt qu'auparavant. Donc tout ça laisserait effectivement présager d'un effet du réchauffement climatique en particulier sur les algues. Oui.
Et alors nous parlons aussi de la propagation des algues, notamment en Méditerranée. Où est-ce qu'on en est de cette...
Colerpa taxifolia qui nous avait fait si peur. Il semblerait qu'on soit trompé d'adversaire.
Oui, en quelque sorte, je pense. Effectivement, la Colerpa taxifolia a été relativement bien éradiquée. Il reste, je crois,
donc c'était
une
algue qu'on nous disait, elle va envahir la Méditerranée. Et donc, il y avait des gens qui s'étaient mis à les arracher.
Exactement. Ouais. Et ça a été visiblement assez efficace puisqu'il n'en reste pas tellement. Par contre, il y a une autre espèce, la Colerpa racemosa, qui elle est en train d'envahir assez notoirement toute la Méditerranée. Et en plus, elle est vraiment très difficile à éradiquer parce qu'elle se reproduit sexuellement, à la différence de l'autre qui ne se reproduisait que par fragmentation. Celle-là va libérer des gamètes dans le milieu qui vont se disperser et aller coloniser énormément d'habitats, puisqu'en plus on la retrouve très profond, on la retrouve depuis la limite des hautes mers jusque, moi je l'ai retrouvée à plus de 60 mètres de fond.
Elle ressemble à quoi?
Elle ressemble un peu à l'autre, à des grappes de raisin. C'est joli, hein, c'est très joli, mais par contre elle étouffe tout. J'ai même vu des espèces de grandes moules géantes qu'on appelle des nacres qui étaient complètement enveloppées par cette Colerpa racemosa.
Mais là vous venez de dire que vous en avez vu à 60 mètres, mais vous ne descendez pas avec Adrian, 4 ans, à 60 mètres. Et donc il y a des endroits différents où vous allez ramasser les algues.
Oui, bien sûr, on va les ramasser. Déjà, quand la mer veut bien se retirer d'elle-même, notamment sur les côtes de Bretagne et Normandie, on y va à pied.
D'accord.
On a beaucoup plus de temps pour prospecter à pied. Et puis, là où la mer ne veut plus se retirer, en dessous du niveau des baseaux, ou alors en Méditerranée en particulier, eh bien, oui, on va aller en plongée. Mais je vous promets, je ne mène pas Adrien à 60 mètres.
Mais vous descendez, vous, à 60 mètres?
Oui, c'est la limite maximum autorisée pour les plongeurs scientifiques. Ouais.
Ah oui, parce que avant, vous faisiez de la plongée de manière, on va dire, ludique. Et puis maintenant, c'est presque une seconde nature, quoi.
C'est surtout que si je n'ai pas quelque chose à faire sous l'eau, je m'ennuie. Si j'ai plus d'algues à ramasser, de photos à prendre, etc., je me sens inactive.
Alors à part ça, dans votre vie privée, on va dire, sans entrer dans les détails, vous aimez bien la musique classique, mais vous ne jouez pas d'instrument. Vous allez souvent au concert, et vous êtes naturaliste par passion.
Oui, c'est vraiment... Moi, je suis assez proche de la nature et c'est un vrai plaisir renouvelé de toujours aller revoir les saisons qui succèdent et les cortèges qui s'en suivent aussi.
Lynn Le Gall, si vous aviez quand même, je vous la demande, une baguette magique, vous feriez quoi avec, à part faire la fourmi?
J'essaierais de préserver au mieux l'environnement qu'on étudie et essayer de valoriser au maximum toutes les études qui sont faites à l'heure actuelle sur la biodiversité pour la protéger.
Et en tant que maman, par rapport à Adrien, ça serait quoi le message?
À l'éduquer à préserver la nature autant que faire se peut, avec toutes les contradictions qu'on a en vivant dans une ville moderne et contemporaine, et dans une mégapole comme Paris.
Les chercheurs que vous voyez arriver maintenant, les post-docs, etc., vous pensez qu'ils sont aussi sensibilisés que vous à ces questions?
Je pense que oui, je pense que les jeunes sont extrêmement sensibilisés à l'environnement. Après, il y a une différence entre être sensibilisé et mettre en pratique mode de conduite face à l'environnement. Et là, je pense qu'on est tous dans une certaine contradiction, plus ou moins poussée en fonction des gens, mais c'est très difficile.
Avant de vous quitter, vous avez des souvenirs particuliers de... Parce que dans votre biographie, on voit que vous avez travaillé aussi en Indo-Pacifique. Donc là, vous avez fait quoi? Juste de la plongée? C'était quoi? Ça faisait partie de votre thèse?
Non, tout ça, ce sont en fait des missions de prospection de la biodiversité. Que j'en ai mené un peu en article, quand je faisais mon postdoc au Canada en particulier. Et puis là, au muséum, on en développe sur l'Indo-Pacifique, notamment le sud de Madagascar, les îles éparses, la Nouvelle-Calédonie. Et puis, moi, je m'intéresse beaucoup à la France. J'aime vraiment travailler sur la flore française. Je trouve que c'est trop près de chez nous pour la négliger.
Et il y a ce programme auquel vous participez, là, le DNA barcode. Qu'est-ce que c'est?
C'est justement d'utiliser une petite séquence d'ADN pour caractériser les espèces. C'est un outil qui nous est vraiment utile et qui nous facilite notre vie.
Mais est-ce que dans 30 ans, vous serez peut-être celle qui aura pu faire passer notre connaissance de 6000 espèces à 10, 12, 14 000?
10 000, c'est possible. 14 000, c'est possible. Si la diversité, elle est beaucoup plus grande, je pense que malheureusement, on n'arrivera pas.
Et est-ce que la solution, ça serait d'avoir des clones de Lynn Le Gall?
Oh, j'espère pas, ça serait très ennuyant.
Ouais, trop original pour accepter ça, oui.
Lynn Le Gall, merci de nous avoir fait découvrir ce monde des algues. Bon travail.
Merci à vous.
Et j'aimerais vous nous rappeler où travaille Lynn Le Gall.
Eh bien, elle est au Muséum d'Histoire Naturelle, mais elle est aussi donc au département de systématique...
Et évolution.
Et évolution, donc au CNRS et à Paris 6. Voilà. Systématique, donc, c'est la classification des espèces.
Absolument.
Merci Jean-Yves, la semaine prochaine nous serons avec...
Ah, encore une jeune femme charmante, on a vraiment de la chance sur Micromega, ce sera Pascal Chabanet, les hasards de la vie font qu'elle plonge aussi, alors...
Ah bah décidément, merci, comme d'habitude bien sûr vos questions, vos remarques sur le site de RFI ou sur Facebook, page Micromega. L'émission a été réalisée par Cécile Bonici, mixée par Cyril Etienne, on vous retrouve la semaine prochaine, de toute façon, très bonne journée à l'écoute de RFI.